ces mots quand le 33 furent écrits il y a 17 ans. C'est long, 17 ans, et je ne sais plus du tout à quoi il se rapportait. J'avais perdu mon cahier dans la cabine du Speranza. Hier, en revenant à Imbros, après une croisière d'une heure, je l'ai retrouvé derrière un coffre. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à tenir mon crayon dans mes doigts, et ce que j'écris a un curieux aspect. C'est l'écriture d'un homme qui a perdu l'habitude d'écrire. Cela fait 17 ans. J'ai du mal à m'exprimer. Je dois chercher mes mots et je suis à peine surpris de ne pas toujours savoir les orthographier. Pendant toutes ces années, je n'ai pas articulé un son et maintenant, les lettres de l'alphabet me paraissent aussi bizarres que celles de n'importe quel alphabet étranger, comme le russe par exemple. Peut-être est-ce mon imagination. Je sais que j'ai beaucoup d'imagination. Mais quoi écrire ? L'histoire de ces 17 années ne peut pas être racontée, grand Dieu. Il faudrait encore 17 années pour le faire. Il faudrait raconter en détail la construction du palais, comment ce travail m'a presque tué, comment par deux fois je l'ai abandonné, puis comment j'y suis revenu en esclave soumis, comment j'en ai rêvé, comment je me suis prosterné devant lui, priant, délirant, me roulant par terre, comment aussi, n'ayant pas prévu que l'or augmente de volume en été, je dus recommencer le travail de 8 mois et reconstruire le mur du nord. Ô Dieu, comme je t'ai maudit ! Il faudrait dire aussi comment le lac de vin s'évaporait plus vite que les conduits ne le remplissaient, parler des 5 voyages que je dus faire à Constantinople pour me ravitailler en vin, et mon désespoir futile jusqu'au moment où j'eus l'idée de placer le réservoir sous la terrasse, ce qui m'obligeait à la démolir jusqu'aux fondations du côté sud, terrorisé longtemps à l'idée que tout ce côté du palais allait s'affaisser. Il faudrait raconter comment le pétrole manqua et mes 3 semaines de recherche le long de la côte pour en découvrir. Et comment, après avoir établi soigneusement la liste de toutes les plaques de jet nécessaires, j'avais oublié le produit pour les polir. Comment encore, la 3e année, je découvris que l'enduit qui devait me servir à rendre imperméables les pierres de la terrasse s'était presque entièrement répandu dans les cales du Speranza, ce qui m'obligea à aller chercher du silicate de soude à Gallipoli. Il faudrait dire enfin qu'après 2 ans d'observation, je remarquai que le lac avait des fuites et que le sable d'Imbros ne se mélangeait pas comme il fallait au ciment de Portland qui recouvrait le bétonnage. Et je fus obligé d'utiliser des feuilles de bitume en 3 endroits. Je fis tout cela pour l'amour de Dieu, en pensant « je me débarrasserai de l'enfer qui est en moi. Mon œuvre, une fois terminée, s'élèvera comme un temple qui témoignera en ma faveur. » Alors je pourrai vivre en paix. Dois-je ajouter que j'ai été trompé pendant 17 longues années de ma vie, car Dieu n'existe pas. Je dois ajouter que mes talents de plâtrier ne furent pas à la hauteur. Je dus employer de la bourre, de la terre, des chiffons et tout ce qui me tombait sous la main pour boucher les fissures du mur de soutènement de la terrasse. D'autre part, le système de fermeture des fenêtres me joua des tours. Plusieurs espagnolettes disparurent d'une manière étrange, comme si des harpies, dès que je les posais, les dérobaient pour les emporter en enfer, et il me fallut en fabriquer de nouvelles. La chaîne de la grue n'était pas assez longue pour les 2 panneaux d'argent que j'avais moulés, et ils étaient trop lourds pour que je puisse les soulever de mes mains. J'étais au désespoir. Il y avait aussi tant d'herbes à arracher que je piquais d'affreuse colère. Faut-il encore parler de ces 2 semaines atroces pendant lesquelles je cherchais en vain le manuel qui décrivait les procédés pour traiter l'ambre. Quand tout fut terminé, je fis sauter la grue et la forge avec du fulmicoton, ce qui provoqua une fissure sous l'or de l'escalier et de la terrasse. Je ne pus m'en consoler et j'éclatai en larmes. Cependant, en dépit d'immenses difficultés, J'éprouvais une sensation divine en constatant que j'avais réalisé une œuvre qui témoignait de ma puissance. J'avais commencé à la manière d'un troglodyte ne pouvant soulever plus de 100 kilos. En perfectionnant mon outillage, je parvins à remuer des tonnes, à presser des coulées de métal dans des moules, et, après avoir installé une cage baladeuse, je pus travailler aisément à la construction elle-même. De la porte de ma case, sous la lumière de la lune qui semble électrique en cette région, je pouvais contempler pendant mes nuits sans sommeil les trois piliers faits de pierres d'or, de panneaux d'argent et de plaques de jais. C'était réconfortant. Il y avait aussi le polissage, mais tout cela est terminé et je ne tiens pas à revivre ce cauchemar vulgaire des moyens et des fins. C'est pourquoi je me suis remise à écrire, mais écrire quelque chose qui en vaille la peine si j'ai le courage de poursuivre. 17 années d'erreurs et de déceptions. Je ne saurais comment expliquer tous ces gémissements, toutes ces souffrances qu'un être raisonnable trouverait dérisoires. J'aurais pu évidemment vivre tranquille dans quelque retraite du Moyen-Orient tout en incendiant mes villes. Les paroles de ce pasteur britannique tonitruant qui avait prédit ce qui devait arriver restaient gravées dans le fond de mon cœur. « La défaite de l'homme et la défaite de Dieu », avait-il dit. Je pensais donc que le dernier homme ne devait pas se conduire comme un démon dans l'unique but d'offenser cet autre, et je ne cessais de me répéter « Je serai un homme bon, je ne brûlerai rien, je ne prononcerai aucune parole indécente, je ne me livrerai pas à la débauche, et j'étoufferai ces blasphèmes que les autres proférèrent par ma voix. » Je bâtirai et rebâtirai en souffrant et en gémissant. Mais c'était pure vanité. Et cependant, j'aime cette demeure, je l'aime infiniment. Elle est mon refuge dans le désert de ma vie. J'avais calculé qu'elle pouvait être terminée en 12 ans. J'aurais pu la faire en 14, mais un jour, quand les escaliers des terrasses du sud et de l'ouest furent pratiquement terminés, c'était au mois de juillet de la 3e année, au moment du coucher du soleil, j'abandonnai le travail. Au lieu d'aller à mon campement, où le dîner m'attendait, je me dirigeai vers mon bateau, étrangement poussé par je ne sais quelle idée folle, sans discuter avec moi-même, le sourire aux lèvres. À minuit, je croisai au large de Mytilène, à 30 miles au sud, ayant dit adieu, pensais-je, à mon chantier. J'allais incendier Athènes. Mais je n'en fis rien. Je poursuivis ma route vers l'ouest, au large du cap Matapan, décidé à détruire les forêts et les villes de Sicile, si je trouvais une automobile en état de marche. Je ne m'étais pas donné la peine d'embarquer ma voiture à Imbros, sinon j'aurais ravagé une grande partie de l'Italie du Sud. Mais en arrivant dans les parages, je fus saisi d'horreur. L'Italie du Sud n'existait plus. La Sicile non plus, à moins qu'elle fût réduite à une petite île longue de 8 kilomètres. Je ne vis rien d'autre que le cratère du Stromboli encore fumant. Je poursuivis ma croisière vers le nord, cherchant la terre, sans vouloir admettre depuis longtemps les renseignements fournis par mes instruments de bord, pensant qu'ils me trompaient délibérément ou bien que je déraisonnais. Mais ce n'était pas cela. L'Italie n'existait plus jusqu'à la latitude de Naples. Naples aussi avait disparu, engloutie comme tout le reste. Ce monstrueux cataclysme m'épouvanta. J'étais dans un état de stupeur sacrée. Mon esprit pervers se trouva comme glacé, car je crus, et je crois toujours, qu'un bouleversement total était en train de transformer la surface de la terre. Qu'allais-je devenir, ô mon Dieu, dans ce drame ? Je continuai cependant ma route, mais sans hâte, sans penser pendant plusieurs jours, à faire quoi que ce soit de peur d'offenser je ne sais qui. Dans cet état d'aliénation mentale, je cabotai le long des côtes ouest de l'Espagne et de la France pendant 7 semaines, passant d'un calme plat surprenant à des tempêtes d'une violence inimaginable. Finalement, j'atteignis Calais et, pour la première fois durant ce voyage, je descendis à terre. Une fois là, rien ne pouvait plus me retenir, il fallait que je mette le feu partout. J'incendiai les forêts qui s'étendent entre Azincourt et Abbeville. J'incendiai Amiens, puis les forêts entre Amiens et Paris. J'incendiai Paris. Pendant 4 mois, je portais le feu partout, laissant derrière moi des régions dévastées par les flammes, des ruines innombrables, comme un monstre des abîmes flétrit tous les endroits qu'il survole. Cette passion incendiaire m'est devenue une habitude non moins contraignante et non moins avilissante que celle de l'opium pour l'intoxiquer. C'est une nécessité, c'est mon alcool, ma fête, mon péché secret. J'ai brûlé Calcutta, Pékin et San Francisco. Bien que l'édification de mon palais fût ma passion dominante, je continuais à porter partout l'incendie, 300 villes et autres lieux. Comme Léviathan s'ébattant dans la mer, je bouleversais l'ordre des choses terrestres. Après une absence de 6 mois, je revins à Imbros. J'avais besoin de revoir ce que j'avais bâti de mes mains et de me moquer du pauvre être si peu royal que je suis. Une fois sur place, quand je vis le chantier que j'avais abandonné, frustré et désolé, attendant les mains de son architecte, j'en eus pitié et l'instinct de bâtir me reprit. Il y a du divin dans l'homme. Je tombai à genoux, je tendis mes bras vers Dieu et je fus converti. Je promis de terminer mon œuvre en le priant d'édifier ma volonté comme j'édifiais ce palais et d'arracher cet homme aux mains de l'ennemi. Le même jour, je polissai les 6 dernières dalles de la cour. Je ne quittai plus Imbros pendant 4 ans, sauf pour de courtes expéditions sur la côte, à Kilidbar, Gallipoli, Lapsaki, Gamos, Erdek, Héraclie. J'allais même une fois à Constantinople. Ces voyages avaient pour but de me procurer certaines choses qui me manquaient ou simplement de me délasser. Mais je ne détruisis rien, réfrénant mes humeurs devant la crainte de mon Créateur. Ces croisières sur les côtes du Levant étaient pleines de charme. Le paysage ressemblait à un dessin à l'aquarelle exécuté par un ange plutôt qu'à l'ouvrage de cette terre ingrate. Je revenais à Imbros content de moi, approuvé par ma conscience. J'avais échappé à la tentation et je vivais docile et pur. J'avais mis en place du côté du sud les 2 colonnes sculptées de lotus et la terrasse avait une sorte de beauté céleste. Elle avait 60 mètres carrés, recouverte alternativement de plaques de jais et d'or transparent. Un matin, je remarquai que la coque du Speranza était vraiment trop sale. Une envie irrésistible me prit de tout planter là et d'aller la nettoyer. Je retournai à bord, descendis dans la cale, me changeai en matelot et me mis à transborder le lest à tribord, de manière à pouvoir commencer le carénage à bâbord. Ce fut un travail fatigant. À midi, j'étais assis sur un sac de lest pour me reposer un peu dans l'ombre de la cale, quand j'entendis une voix me murmurer à l'oreille. « Tu as rêvé la nuit dernière qu'il y avait un vieux Chinois encore vivant à Pékin. » Je me relevai horrifié. J'avais en effet rêvé de quelque chose comme cela, et je bondis sur mes pieds. Ce jour-là, je ne nettoyais pas le Speranza, et pendant 3 jours, je ne fis plus rien. Je restai dans ma cabine à méditer en caressant ma barbe de fleuve. L'idée qu'une telle chose ait la moindre chance d'être vraie me semblait aussi détestable que l'idée de la mort. Cela changeait la couleur du soleil et toute la tonalité de l'existence. De temps à autre, cet outrage me rendait enragé et mes yeux lançaient des flammes. Le 4e jour, au crépuscule, je me dis « Ce vieux Chinois de Pékin est sans doute condamné à être brûlé vif, à moins qu'il ne soit projeté en l'air par une explosion. » C'est ainsi que, pour la 2e fois, le 4 mars, le malheureux palais fut abandonné à lui-même. Après un séjour à Gallipoli, où je pus me procurer un certain nombre de branches de citronniers dans des coffrets d'argile, ainsi que des citrons en conserve et du gingembre, je partis pour un long voyage vers l'Orient. Je passai par le canal de Suez et je visitai Bombay pendant 3 semaines. Puis je la détruisis.